بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Chers en islam, nous sommes à la moitié de la sourate An-Nazi'at. On avait récapitulé ce qui avait déjà été vu avant les vacances, la semaine dernière, concernant les anges, la description des anges, la description de l'ange de la mort qui reprend l'âme du croyant, et l'ange de la mort qui reprend l'âme du mécréant ou de celui qui a vécu de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Ça c'était le premier tiers, on pourrait dire, de Wan-Nazi'at. Dans le deuxième tiers de Wan-Nazi'at, on avait vu les versets en rapport avec la destruction de ce dunya et la résurrection. Et c'est ce qu'on avait un peu expliqué la dernière fois. Et on avait vu également le verset qui stipule qu'en ce jour, قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. Ce jour-là, où il y aura des cœurs qui seront bouleversés, les regards seront hagards, perdus, apeurés. Et on avait fait le parallèle avec ces mêmes personnes qui, de ce dunya, vivent, profitent de ce monde, gouvernent parfois. Ils ont parfois l'autorité et parfois même ils font preuve de pression sur ceux qui ont la foi, qui ont le iman. Et lorsqu'on est de ce dunya, on n'arrête pas de se demander jusqu'à quand est-ce que ces injustices vont perdurer, quand est-ce qu'Allah Azza wa Jal enverra son aide. Et on avait vu en parallèle un petit peu avec l'histoire de Moussa alayhi salam qu'on va développer aujourd'hui, qui vient juste après la description de la fin du monde, de la résurrection, que des fois Allah Azza wa Jal envoie effectivement son aide dans ce monde. Et chaque croyant voit l'aide d'Allah Azza wa Jal. Mais il y a des fois où la nusrat d'Allah n'intervient pas de ce monde. Et Allah Azza wa Jal, dans ce cas, garde sa nusrat et donc son aide pour les opprimés entièrement dans l'au-delà. C'est-à-dire que le manzila, le degré des opprimés qui n'auront pas vu l'aide d'Allah de ce monde, ce sera un degré exceptionnel, enviable le jour de Qiyamah, lorsqu'ils verront l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, on ne va pas tomber dans le piège du récapitulatif. On fait 30 minutes, on répète ce qu'on a vu les dernières fois. On y va directement. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Justement, l'histoire de Moussa alayhi salam, et vous savez, c'est une des histoires les plus racontées de le Coran, c'est l'histoire par excellence de la personne qui était dans la position la plus délicate pour mener une prophétie, une prêche, face au plus grand tyran, pas de son époque, certainement de l'humanité, face au plus grand tyran de l'humanité, qui est le seul à avoir proclamé Al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah, le seul à avoir proclamé l'unicité et avoir imposé à son peuple le culte de sa personne. Même à l'époque de le prophète alayhi salatu wassalam, où il y avait des Abu Jahl, il y avait des Abu Lahab, personne n'a osé dire que je suis votre Seigneur. Il reconnaissait la création d'Allah, l'unicité d'Allah dans Ar-Rububiyya, de la création, mais il péchait, il faisait des erreurs dans Al-Uluhiyya, de le culte, de l'adoration d'Allah. Il reconnaissait que Allah a créé, Allah nous a donné la vie, Allah nous donnera la mort, mais lorsqu'il s'agissait de faire l'adoration, il mélangeait entre le Seigneur et les wasilas, les ancêtres, les esprits, les idoles qui étaient censés les rapprocher d'Allah. Donc ils péchaient de cette façon. Mais un contexte comme celui de l'époque de Moussa alayhi salam, avec un tyran du niveau de Pharaon, c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit et qui ne se reproduira plus dans les prophéties. Et lorsqu'Allah Rabbul Izza cite l'histoire de Moussa alayhi salam, une des raisons les plus reprises par les Mufassirin, rahimahumullah, par l'ensemble des commentateurs du Coran, c'est pour illustrer, c'est parce que cette histoire illustre l'opposition entre la tyrannie, le shirk à l'état pur et le tawhid à l'état pur. Et un tawhid, une risala, une révélation qui est venue de la plus belle façon, qui est venue par le biais d'une conversation directe entre Allah Azza wa Jal et un de ses prophètes, chose que Moussa alayhi salam a reçue comme khususiyya, comme spécificité, quelque chose qui lui est propre de ce dunya parmi l'ensemble des anbiya alayhi salat wa salam, d'où son surnom Moussa Kalimullah, celui qui a parlé avec Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'Allah Rabbul Izzah cite l'histoire de Moussa alayhi salam, on avait vu un peu ça la dernière fois, c'est un encouragement, tasliya. C'est pour encourager le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également l'ensemble des mu'mines et des mu'minas qui vivent des situations difficiles, afin qu'ils réalisent comment était la situation au début des Banu Israël, lorsqu'ils étaient opprimés, réduits à l'esclavage par Pharaon. Il y a eu des étapes. L'histoire des Banu Israël, c'est beaucoup d'étapes. Il y a eu l'étape de l'oppression, de l'esclavage. Il y a eu l'étape de l'attente. Il y a eu l'étape de la nusra, de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et le plus compliqué, le pire viendra après l'aide d'Allah. Et c'est là aussi une leçon pour nous. Une leçon pour les personnes qui vivent des situations d'oppression de leur foi, mais une leçon également pour les personnes qui ont reçu l'aide d'Allah et qui ne vivent plus l'oppression, mais bien au contraire, vivent librement, ouvertement leur foi. C'est-à-dire que, à travers l'histoire de Moïse, de Moussa alayhi salam, et donc de Banu Israël, n'importe quelle catégorie de croyant peut se retrouver. Il y a le croyant qui a du mal à pratiquer sa religion parce qu'il y a des zulms, des oppressions, des situations un peu coincées, un petit peu comme à notre époque nous commençons à vivre. Et puis on a ceux qui vivent dans l'opulence, tranquilles, ils pratiquent ouvertement, librement leur religion. Mais l'histoire de Moussa alayhi salam et des Banu Israël est également une leçon pour eux. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Le Coran, pas besoin de décrire, je n'ai pas les termes pour le décrire, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Les qasasul anbiya, les histoires des prophètes de le Coran, mes chers frères en islam, chaque histoire de prophète c'est un trésor. On doit apprendre, on doit étudier. Quand on cite l'histoire de Moussa à travers quelques versets, on va juste citer ce qu'on appelle en arabe Usul Aqlam, les points les plus importants, les points émergents et les points qu'on voit dans les versets. Mais maintenant à nous d'approfondir, de creuser. Essayez de renforcer notre foi en puisant de l'histoire des prophètes. Ce n'est pas pour rien si Allah Rabbul Izza cite combien de prophètes de le Coran ? À peu près combien ? 25 prophètes de le Coran. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jal détaille parfois l'histoire d'un prophète. En une fois, quel est ce prophète dont l'histoire est citée en une fois de le Coran de façon complète du début jusqu'à la fin ? On n'a pas de chocolat distribué, on n'est pas dans les séminaires Hidayah. J'ai pas grand-chose, j'ai de l'eau, j'ai mes notes, rien du tout. J'ai de l'argent, mais bon, quand même pas. Quel prophète ? Youssouf, alayhi salam. Et quel prophète, bon là on a la réponse, dont l'histoire est citée, je n'ai plus en tête le nombre de fois, le nombre de chapitres, c'est une trentaine de fois, wallahu alam, le prophète dont l'histoire est citée le plus souvent de le Coran, dans quasiment chaque juz, on retrouve le nom de ce prophète, c'est Moussa alayhi salam, et à chaque fois, c'est un épisode, c'est une période de sa vie qui est citée. C'est pas que son histoire est citée dans son intégralité à chaque fois, autrement, il y aurait eu, on aurait l'impression que ce soit une répétition, mais c'est là également le mu'jiza. Le miracle du Coran, c'est le fait qu'il provienne d'Allah, il était protégé. Tout ce qu'on connaît à propos du miracle du Coran, c'est également le miracle de le style du Coran. Le miracle dans la façon de donner les informations. Une histoire comme celle de Moussa alayhi salam, qui est citée dans Al-Baqarah, qui est citée dans Al-A'raf, qui est citée dans Al-Nazi'an, qui est repris dans Al-Kahf, qui est repris dans différents chapitres du Coran, Al-Qasas et d'autres chapitres du Coran, ce ne sont pas les mêmes informations qui sont données. Et si, et même si ce sont les mêmes informations, le style est différent. Ce qui fait que le lecteur ne se lassera jamais d'entendre, d'étudier de lire la traduction de l'histoire de Moussa alayhi salam. Et à chaque fois où son histoire est citée, c'est qu'il y a une leçon particulière à retenir. Par exemple, la surah Taha dont on est devenu amoureux avec surah Al-Qasas, il n'y a pas mention de Qaroun. Il n'y a pas mention de l'épouse de Pharaon qui a donné sa vie pour Allah et qui a demandé à Allah de lui construire une maison dans le Jannah et qui a reçu la bonne nouvelle du paradis. Parce que il y a certains éléments qui doivent être donnés dans la sourate Taha. Et ces autres histoires, ces autres épisodes, on peut retrouver dans d'autres chapitres du Coran. C'est ce qui fait la beauté du Coran. La façon qu'Allah Rabbul Izza donne les informations d'un chapitre à l'autre en fonction des besoins. Donc là, n'oublions pas, on resitue Wan-Nazi'at, c'est un sourate qui a été révélé à Mecca, période de difficulté, période de volume d'oppression où pour affirmer sa foi, il faut passer par des chemins difficiles, voire inaccessibles. Et on risque même de perdre sa vie si on affirme son iman, sa foi. D'où le récit de Moussa alayhi salam pour encourager les croyants dans ces moments difficiles et pour encourager le prophète alayhi salat wa salam dans la propagation de sa religion, parce que son frère Moussa alayhi salam a connu des situations extrêmement compliquées face à un tyran. Et on verra quelques étapes de cette histoire. Hal ataka hadith Moussa, le récit de Moïse t'est-il parvenu? Donc c'est ce qu'on avait dit, l'histoire de Moussa alayhi salam dans ce sourate est citée et racontée comme un encouragement pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il y a différents points, je pense qu'on avait déjà cité, sur l'importance des histoires du Coran, qu'est-ce qu'on a profité, quelles sont les grandes leçons à retenir de l'histoire, des histoires du Coran, et puis plus précisément des histoires des Anbiya, des prophètes dans le Coran. On a vu que chaque personne peut trouver une source de réconfort. Ça peut être une personne qui est éprouvée par l'oppression des gens, par la trahison, par la maladie, quelles que soient les épreuves, chaque prophète a connu le summum en termes d'épreuves. Comme on avait dit la dernière fois que les gens les plus éprouvés, Ashadunnas, Ibalaan, Al-Anbiya, les gens les plus éprouvés par Allah Azzawajal, ce sont les prophètes, alayhi salat wa salam. Et chaque prophète a connu une épreuve, un ibtila différent, et quand un prophète était éprouvé, ça, c'était l'épreuve, le summum de l'épreuve. C'est-à-dire, personne après ce prophète ne sera autant éprouvé par cette catégorie d'épreuves. Et donc, nous, quand on est touché par cette difficulté, nous devons prendre comme exemple ce prophète. Celui qui a été éprouvé par la maladie, son modèle, son héros, ce sera Hazrat Ayyub alayhi salam. Celui qui a été trahi par des gens qui l'aimaient, son modèle, ce sera Ya'qub alayhi salam. Celui qui a été trahi par ses frères, qui ont essayé soit de lui... Bon, dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, c'est de lui donner la mort, ou alors de l'éloigner complètement, il prendra comme exemple Yusuf alayhi salam, et à chaque fois, wal'aqibatu lil muttaqin. En finalité, quelle que soit la complexité de la situation, quelles que soient les difficultés, les péripéties, dans la situation finale, il y a le dénouement, et le dénouement, c'est l'aide d'Allah vient toujours pour les pieux. Et c'est là l'exemple à retenir. Si quelqu'un se prive des histoires du Coran, il se prive d'une lumière, de différentes lumières. Il se prive de différents fils conducteurs qu'Allah Rabbul Izzah a révélés afin qu'on puisse s'y accrocher. Et c'est ça la beauté de notre religion. C'est ce qui fait que notre dîn est complet parce que nous croyons iman bir rusul. Nous croyons à l'ensemble des prophètes. Nous avons notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nous avons Ibrahim alayhi salam également comme modèle. Si quelqu'un me rappelle le verset, qad kana lakum fi, le verset qui, subhanallah, ça me reviendra peut-être, ça tourne de les mêmes termes, uswatun hasana, en parlant d'Ibrahim alayhi salam. Et nous avons chacun de ces prophètes dont les histoires sont citées dans le Coran afin qu'on les prenne en exemple et qu'on suive leur modèle, on suive leur mode de vie, on suive leur réaction, leur iman. C'est ce qui fait l'universalité de notre religion. Et en plus, nous avons des gens qui cette fois-ci ne sont pas parfaits. Parce que les prophètes étaient parfaits. Tout ce qu'ils faisaient, ça, c'était l'inspiration d'Allah Azza wa Jal. Même s'ils accomplissaient des erreurs, c'était la volonté d'Allah afin qu'il y ait une situation qui se crée. Lorsque Moussa alayhi salam donne une claque à la personne qui était en train de se bagarrer avec un Israélite, « Fa wakazahu Moussa fa qadha alayhi » il l'a frappé une fois, la personne est décédée tout de suite. C'était la force de Moïse, Moussa alayhi salam. C'est une erreur de Moussa alayhi salam, mais c'était la décision d'Allah azza wa jal, parce que par rapport à cette, on va dire, c'est pas une erreur de parcours, mais par rapport à cette faute, en guillemets, il y aura une certaine conséquence qui va apporter un dénouement et qui lui permettra ensuite d'aller vers cet endroit pour recevoir la prophétie. Ça, c'est l'exemple de personnes qui sont parfaites, qui ne commettent pas d'erreurs, qui reçoivent la révélation d'Allah Azza wa Jal. En plus de ces guides, de ces fils conducteurs, Allah Rabbul Izzah nous a donné comme exemple également des gens qui parfois faisaient des péchés, des gens qui ont atteint le summum de la foi, mais qui restaient des êtres humains comme vous et moi, avec des qualités et des défauts, avec des forces et des faiblesses. C'était les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, qui restaient des hommes avec des qualités, mais parfois ils se trompaient, ils s'en remettaient. Allah Azza wa Jal demandait pardon, il demandait des conseils au Prophète sallam, et nous avons en eux également les modèles. Le Prophète sallam nous a demandé de suivre n'importe quel de ses compagnons, parce qu'on trouvera toujours le haq, la vérité. C'est ce qui fait que dans notre dîn, il y a le discours, il y a les « Ya yuhalladhina amanu, ya yuhalladhina amanu » « Oh vous qui avez la foi », il y a les ordres, il y a les interdits, mais l'homme ne peut pas se suffire des thèses. On appelle ça en arabe « at-tarbiya bil » ça c'est des trucs qui remontent, hein, qui remontent très longtemps. Il y a « at-tarbiya », le dernier c'est « bil-qudwa » At-tarbiya bil am, si je ne me trompe pas, l'éducation par le discours, mais l'éducation par le discours doit être accompagnée de l'éducation par le modèle vivant. Et le modèle vivant, on nous a expliqué, le Prophète sallam, les prophètes alayhimus salat wa salam, les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. On a les thèses et on a l'application. Et lorsqu'on demandait à Aïcha radiallahu anha comment était le comportement du Prophète alayhi salat wa salam, elle répondait kana khuluquhu al Al-Qur'an. Notre prophète explique comment il faut faire. Allah Azza wa Jalla explique au prophète. Le prophète donne les explications, comment tes versets, mais il l'applique en premier. Lui-même, il l'applique. Et l'ensemble des sahaba les appliquaient, ce qui fait que nous avons les exemples à suivre en plus des thèses, en plus du discours qu'Allah Rabbul Izzah nous a révélé. Donc, on revient sur l'histoire de Moussa alayhi salam. Hal ataka hadith Moussa ay. Ya Muhammad, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ta communauté, c'est un rappel pour vous, l'histoire de Moussa alayhi wa sallam. Qui était Moussa alayhi wa sallam? On ne va pas citer sa généalogie, ce n'est pas le but. On essaie de compléter les cinq versets aujourd'hui, Inch'Allah. Il faisait partie des Ulul Azm, des cinq grands prophètes. Qui peut me citer les cinq grands prophètes de l'histoire des Risales? On a bien sûr notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on doit toujours citer en premier. Ensuite, Isa alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam et Moussa alayhi salam. Ulul azmi min ar-rusul. Donc Allah Ta'ala dit: "Wa idha akhadna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Moussa wa Isa ibn Maryam" de sourate Al-Ahzab. Allah Rabbul Izzah cite les cinq grands prophètes. En commentaire, c'est une petite parenthèse, les savants disent, voyez, lorsqu'Allah Azza wa Jal cite ce verset, je n'ai pas la traduction sous les yeux, mais c'est le sens à peu près. Lorsqu'Allah cite ces cinq prophètes, Allah Azza wa Jal commence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a pris l'engagement de ces prophètes, wa minka, toi, ô Muhammad. Ensuite, c'est dans l'ordre où ils ont été envoyés sur la terre, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a un tertib, il y a différents prophètes qui sont cités dans un même verset, notre prophète vient toujours en premier. Ça, c'est une grande preuve de l'amour qu'Allah Rabbul Izzah a pour son Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une grande leçon pour nous, comment est-ce que nous devons développer l'amour pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On entend beaucoup de gens qui réagissent à propos des caricatures, tout ça. Sans le moindre doute, c'est une réaction de foi. Maintenant, en contrepartie, je dois me demander quel est mon degré de muhabba, d'amour pour mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à quel point je suis prêt à m'investir pour connaître sa vie, connaître sa sunna, connaître son mode de vie, sa façon. Et son mode de vie, ce n'est pas uniquement comment est-ce qu'il mange, comment est-ce qu'il boit, comment est-ce qu'il dort, comment est-ce qu'il s'habille. La wallah, c'est sa manière de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Sa façon de faire l'adoration d'Allah, de faire le dhikr, de faire la salah, sa relation avec Allah Azza wa Jal. L'étude de la vie du prophète alayhi salatu wa salam, franchement, ça doit devenir une priorité. Inch'Allah, on doit compléter les Ashratu Sa'a al-Kubra, dans quelques jours. Ce mardi, on doit finir les grands signes de Qiyam, alhamdulillah. Et plutôt que de, en ville, à Saint-Denis, plutôt que de démarrer avec l'au-delà, ça c'est vraiment une envie qu'on a depuis des années, trouver un créneau pour la Sirah, Inch'Allah. On va commencer la Sirah depuis le début, parce que il n'y a rien de mieux pour renouveler son iman que de voir comment est-ce que l'islam a commencé, comment était la prophétie, et en étudiant la sirah, connaître la shama'il, hein, le comportement noble de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces périodes de troubles, il y a plein de gens qui crient, qui vocifèrent, qui protestent, qui manifestent, mais je pense qu'il y a un travail spirituel à faire et qui se fait en silence autour d'un livre avec un enseignant. C'est connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vraiment l'aimer et pour mettre sa sunnah en application dans notre vie. Hada. Et petite parenthèse également, on multiplie les parenthèses, ces cinq grands prophètes étaient certainement les prophètes qui ont été les plus éprouvés par Allah Azza wa Jal. Isa alayhi salam a subi la trahison d'un de ses apôtres. On connaît l'histoire de Isa alayhi salam, Moussa, l'histoire est citée, Ibrahim alayhi salam, qui était projeté dans le feu, qui était testé par Allah, Allahu Akbar, à combien de reprises qu'il pouvait pas, enfin, avant, quand il devait abandonner son épouse dans le désert. Ensuite, quand il ne pouvait pas avoir d'enfant, si je ne me trompe pas, il a eu Ismaïl alayhi salam, il avait plus de 80 ans. Et là, Allah Rabbul Izzah lui demande de sacrifier son fils. Et ainsi de suite, les épreuves d'Ibrahim alayhi salam. S'il est devenu Khalilullah, l'ami intime d'Allah, c'est qu'Allah Azza wa Jal a testé réellement son amour pour lui. Et Allah Rabbul Izzah, qui savait bien sûr, mais ce test était une leçon pour lui et un modèle pour l'humanité. Pour que chaque croyant, toutes les époques, réalise comment est-ce qu'on doit aimer Allah. Et aimer Allah, c'est pas uniquement le dire, c'est pas uniquement le proclamer, c'est pas uniquement une question d'habillement ou une question de tradition. Aimer Allah, c'est faire passer l'amour d'Allah avant n'importe quelle chose qui nous est chère. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. C'est mettre la sunna en pratique. Mais également le verset qui stipule que aimer Allah, le verset ne me revient pas, c'est aimer Allah, c'est aimer plus Allah que ses parents, que ses enfants, que tout ce qui peut être cher à un être humain. Donc ces prophètes étaient parmi les plus éprouvés, qui ont eu le plus d'ibtila, d'épreuves et le plus de difficultés dans leur prêche de la propagation de la religion. Et ça, c'est une leçon pour nous également, que nous devons changer l'échelle des valeurs. Parce que dans notre société, on a compris, on pense que celui qui réussit, c'est celui qui obtient tout. L'homme heureux, c'est celui qui gagne bien sa vie, qui a une famille, qui a un foyer, qui a une maison, et ainsi de suite. C'est-à-dire, tout ce qui nous permet de décrire l'homme qui a réussi, ça doit être des points positifs. Quand il y a un point négatif, on dit que oui, il a réussi, mais quand même, il lui manque telle chose. Alors que l'échelle de valeur spirituelle est totalement différent. Celui qui est aimé par Allah, ce n'est pas forcément celui qui sera en bonne santé, qui sera riche, qui aura réussi, qui sera aimé des gens. Parfois, c'est totalement le contraire. Celui qui est aimé par Allah, c'est celui qui parfois sera éprouvé dans sa santé, éprouvé dans sa famille, éprouvé par différentes ibtilas, différentes difficultés. Mais tout ça, ce seront des preuves qu'Allah Rabbul Izzah aime cette personne, parce que cette personne-là, dans ses épreuves, il sera adopter la réaction du croyant dans les difficultés. On revient donc à l'histoire de Moussa alayhi salam. Idh nadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddas Tuwa. Quand son Seigneur l'appela dans Tuwa, la vallée sanctifiée. Idh nadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddas Tuwa. Notre prophète Moussa alayhi salam, on a le droit de dire notre prophète Moussa parce que c'est également notre prophète. Notre prophète Moussa alayhi salam est en voyage. Il quitte le village de Madian où il a trouvé son épouse qui était la fille de Shu'aib alayhi salam. Après 10 années passées auprès de son beau-père, c'était donc la dot, il devait rester là-bas pour travailler avec son beau-père, pour avoir la main de sa fille. Il va maintenant retourner en Égypte. Et dans ce chemin vers l'Égypte qu'il a quitté depuis 10 ans, il va se perdre. Et lorsqu'il se perd, il voit une lumière de loin. Selon certains commentateurs du Coran, cette lumière n'était visible que par Moïse. Personne, à part Moussa alayhi salam, ne pouvait apercevoir ce nour, cette lumière. Il demande donc à sa famille, c'est pas d'aller verser, mais on le dit rapidement, d'attendre un instant et il va voir qu'est-ce qui se passe. Soit il y a des gens et donc il pourra demander le chemin, où est-elle l'Égypte, sa route, ou alors il trouvera un peu, si c'est de la lumière, il y a du feu. Il pourra amener du feu pour se réchauffer et avoir un peu de lumière pour trouver leur chemin. Et lorsqu'ils s'approchent de cet endroit, il y a un nour, une lumière qui descend près d'un arbre. Et là, Allah Azza wa Jal va parler à Moussa alayhi salam, va lui faire la révélation, va lui annoncer qu'il a choisi pour être prophète. Et Allah va lui révéler les usul, les bases de sa religion, en commençant par le tawhid bien sûr, en commençant donc par l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et viendra ensuite une série d'événements avec une formation spirituelle afin que Moussa alayhi salam soit prêt pour affronter le grand ennemi Pharaon alayhi la'natullah. Et avant que Moussa alayhi salam arrive à cet endroit, il y a un concours de circonstances, il y a tellement de péripéties, des situations tellement compliquées qui paraissent sans issue. Et chacune de ces situations, si on les étudie, c'est presque comme un feuilleton où à chaque fois, on a l'impression que le héros va mourir, il va disparaître, tout se retourne contre lui. Mais en finalité, on voit que dans le dénouement, il obtient toujours l'aide d'Allah et que tous les facteurs qui nous semblaient être négatifs contre Moussa alayhi salam vont s'avérer être des facteurs positifs. Et celui qui lit l'histoire attentivement, pas comme une histoire, un conte de fées ou autre chose, il va réaliser que franchement, lorsqu'Allah Azza wa Jal a décidé de venir en aide à une personne, que cette personne soit fort ou faible, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, éloquent ou qui a du mal à s'exprimer, et qu'en face de lui il peut y avoir une personne ou un million de personnes, quand Allah a décidé d'aider une personne, Allah Rabbul Izzah le fait avec ou sans l'intermédiaire. Et ce verset, c'est un des versets qui m'interpelle le plus de Sourate Al-Qasas. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, le Sourate Al-Qasas, mes chers frères, il est tout simplement magnifique. Lisez-le en français. Étudiez comment est-ce qu'Allah Rabbul Izza, par l'expression, distille les informations et fait monter le suspense. Allah Rabbul Izza convainc celui qui lit que la situation, elle est comme ça, elle est compliquée. Mais que tout d'un coup, Allah Rabbul Izza, ça c'est mes mots à moi, casse ce discours et dit, on a décidé maintenant de changer les choses. En parlant de Pharaon, inna Pharaon ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Quand ça fait 5 ou 6, innahu kana min al-mufsidin. Allah Azza wa Jalla explique qu'est-ce que Pharaon fait, comment il était puissant, quel était son mulk, son royaume, à quel point il terrorisait les gens, hommes, femmes, enfants, il les réduisait à l'esclavage. Personne ne pouvait rivaliser contre lui. Et ensuite, Allah dit, et en expliquant, donc en détaillant la puissance de Moïse, de Pharaon, Allah explique également donc la situation des Banu Israël, qui étaient les opprimés. Tout de suite après, Allah Azza wa Jal dit, wa nuridu, et nous voulons. Et nous avons, je n'ai pas la traduction, mais, et on a décidé de, annamunna ala alladhina stud'ifu fil ard. Et on a décidé de venir en aide à ceux qui étaient opprimés sur la terre. Ce n'est pas uniquement l'aide d'Allah. C'est un renversement de situation. C'est comme si on a une situation où il y a Pharaon, il y a les Israélites, les Banu Israël. Allah dit, on va venir en aide aux Banu Israël. Ce n'est pas uniquement que ça y est, il y aura une égalité, il y aura un équilibre. Non. On veut venir en aide à ceux qui sont opprimés. On va venir en aide à ceux. Et on fait d'eux les maîtres. Et on va faire de ces opprimés les chefs, les dirigeants. Et jusqu'à la fin, pour que ce soit une leçon pour Pharaon. Parce que c'était des gens pervers, ajib. Ces versets sont choquants, c'est impressionnant. Et ça prouve l'aide d'Allah quand Allah décide que les opprimés deviennent les dirigeants. Et Allah le réalise en une fraction de seconde, c'est kun fayakun. Et là, on ne parle pas d'une histoire fictive. On parle d'un homme avec un million de personnes. Lorsque Pharaon a poursuivi Moussa alayhi salam auprès de la mer, Ibn Kathir, rahimahullah, il parle d'un million de personnes qui ont été recrutées par Pharaon. On pourrait appeler ça, c'est de moi, des réservistes. Pharaon a appelé, il avait son armée, mais il a appelé plein de gens pour venir à la poursuite de Moïse et des Israélites près de la mer pour les exterminer. Et c'est une leçon magnifique pour l'ensemble des Oummas, des Oumams, qu'Allah Rabbul Izzah peut venir à bout d'une personne qui cause du tort à sa religion, mais Allah peut venir à bout d'un million de personnes avec le tyran le plus fort, le plus riche, le plus puissant, le plus craint de ce dunya, celui qu'on craignait le plus. Grande leçon pour l'humanité et grande formation pour le yaqin, la conviction. Ne croyez pas ce que vous voyez, ne croyez pas ce que vous entendez, n'ayez pas peur de ce qui effraie vos cœurs. Mais vous devez avoir peur, devez avoir la crainte de celui que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, mais que votre cœur, il y croit parce que vous avez Iman bil Ghaib, et avec cette foi en l'invisible, et la plus belle concrétisation de la foi en l'invisible, nous lisons Alladhina yu'minuna bil Ghaib. Première qualité des croyants citée dans Al-Baqarah. La concrétisation de Al-Iman bil Ghaib, croire en la promesse d'Allah, c'est lorsque Moussa alayhi salam se retrouve face au sorcier et qu'il sait que ces sorciers, ce sont les meilleurs, mais il est persuadé qu'Allah va lui venir en aide. Il n'a pas l'expérience de ces sorciers, mais il sait qu'eux, ils travaillent avec le batil, le faux, mais que lui, il a l'aide du haq, de la vérité, et il sait pertinemment. Il emmène même Haroun avec lui. Il sait que sa vie est en danger. Il va être tué, exécuté s'il rate sa sortie, entre guillemets. Mais la confiance en Allah, c'est la concrétisation de celui qui croit en Allah et qui voit l'aide d'Allah. Et la deuxième situation qui est encore plus parlant, c'est face à la mer. Lorsqu'Allah Rabbul Izzah lui révèle d'aller vers cette mer, et lorsqu'il se retrouve à la limite des vagues, et qu'à droite il y a montagne, à gauche il y a montagne, et derrière il y a Pharaon avec son armée qui arrive, plus d'un million de personnes. Et il y a qui avec Moussa? Il y a une armée? Non! Les Banu Israël, ce sont des esclaves, descendants d'esclaves, des générations d'esclaves, des gens qui ont toujours vécu sous la peur, des personnes traumatisées, ne savent pas se battre, ce ne sont pas des guerriers, ne peuvent pas. Quand ils voient Pharaon, ils commencent à trembler. Ils vont revivre l'angoisse de l'esclavage. Ils ont peur de retourner, de retomber dans l'esclavage. Ils ne savent pas défendre. Ils n'ont aucune force psychologique. Et encore moins spirituelle, à l'exception des meilleurs parmi eux. Et Moussa, qui est interpellé par certaines personnes de son entourage, qui osent lui demander, tu es sûr? Tu es sûr que quoi? Qu'Allah t'a demandé de nous amener ici. Parce que là, à ce moment-là, là, ils ne voient pas l'aide d'Allah. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait là. On aurait pu aller ailleurs. Certains peut-être pensent qu'on aurait dû quitter le royaume d'Égypte et aller vers Madian. Par exemple, où Moussa avait trouvé refuge pendant 10 ans et Madian était en dehors des frontières d'Égypte. C'est pour ça que Shu'aib avait dit que ici, tu es dans un endroit en sécurité, loin des oppresseurs. C'était un autre royaume. Donc certains ils posent la question. Et Moussa alayhi salam ne se laisse pas perturber par les personnes qui commencent à douter. Parce qu'il n'y a rien de pire quand vous êtes dans une situation difficile, dans une situation alarmante, que les gens qui sont censés vous supporter, les gens qui sont censés être de votre côté, commencent à vaciller, à douter. Du coup, ça vous fait perdre pied. Mais Moussa alayhi salam ne perd pas pied. Il n'a pas 1% de doute en la promesse de son Seigneur. Il sait exactement qu'Allah va lui venir en aide et l'aide d'Allah va se concrétiser en une fraction de seconde. Comme Ibrahim alayhi salam, avant de tomber dans le feu, Allah lui envoie son aide. Comme Yunus alayhi salam, dans le ventre de Al-Hud, de la baleine, Allah lui envoie son aide. Comme Yusuf alayhi salam, au fond du puits, il arrive sur un trône ministre des finances d'Égypte. Tout ça, c'est la nusrat d'Allah Azza wa Jal. Tout ça, c'est Al-Iman bil Ghaib. Une croyance, une conviction ferme, parfaite en la promesse d'Allah Azza wa Jal. Donc, les concours de circonstances qu'on avait dit, on ne va pas les citer, c'est extrêmement long. Juste, premier point, Pharaon fait un cauchemar. Il voit que son royaume va être détruit par un Israélite. Donc, cette inversion, c'était la prophétie d'Abraham qui avait été rapportée par les Coptes. Deuxième chose, la réaction de Pharaon. La réaction du tyran, on va tuer tous les petits bébés de sexe masculin. Troisième situation, les Coptes disent qu'à force de tuer les bébés garçons des Israélites, il n'y a plus d'esclaves. Pharaon dit on tue une année sur deux, rapidement. Quatrième situation, Moussa alayhi salam va naître l'année où on tue. Mais si Allah voulait l'aider, il aurait dû naître l'année où on ne tue pas. Au moins il serait vivant, il est protégé. Non. Allah Azza wa Jal envoie ce signe pour tout le monde. Vous pensez qu'il aurait été mieux que ce soit comme ça ? Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. N'oubliez pas que wallahu ya'lamu. Le ilm d'Allah, ça dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Wa antum la ta'lamun. Prends ça d'autres figures, mon frère. Wa antum la ta'lamun. Vous ne connaissez rien. Même l'homme le plus intelligent qui pense tout connaître, le scientifique, celui qui pense maîtriser plein de choses, wa antum la ta'lamun, vous ne savez strictement rien. C'est Allah qui connaît, parce que c'est Allah qui a créé à l'origine lorsqu'il n'y avait rien. C'est Allah qui prédestine, c'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne la mort, c'est Allah qui ressuscite. Tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Vous pensez qu'il aurait été mieux qu'il naisse l'année où on ne tue pas les petits bébés garçons ? Raté. Il va naître, Allah décide qu'il va naître l'année où on tue. Et c'est grâce à ce concours de circonstances compliquées que sa maman va recevoir la révélation d'Allah de mettre ce bébé dans le berceau et de le laisser sur le Nil quand l'armée, quand la milice passe pour vérifier s'il n'y a pas de petit bébé. C'est grâce à ce concours de circonstances compliquées que un jour la maman va oublier d'attacher le berceau et que le berceau va voguer jusqu'à arriver devant le palais de Pharaon. Et quand on voit ça, on se prend la tête et dit ya ya ya. Comment dire en mauricien? Aïe baba. Qu'est-ce qu'on va faire? Il voulait éviter Pharaon. Il tombe pile poil dans le château de Pharaon. Les petits enfants le prennent, ils amènent au palais. La maman, l'épouse de Pharaon, voit ce bébé qui est d'une beauté. Quand les gens voyaient ce bébé tomber, d'admiration devant ce bébé. Et cette maman, cette l'épouse de Pharaon ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. C'était là le taqdir d'Allah Azza wa Jal. Le fait qu'elle n'avait pas d'enfant, quand elle voit ce bébé, elle ne veut plus le quitter. Si elle avait 15 enfants, elle voit un bébé, ce n'est qu'un bébé, elle en a 10 ou 15. Allah a décidé qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Et Allah avait décidé que les signes de la grossesse n'apparaissent pas sur la maman de Moussa. Ça, c'est Allah qui maîtrise le ventre de l'époux de la maman de Moussa et qui maîtrise le ventre de la maman de Moussa, que les signes de la grossesse ne sont pas apparents. Et le ventre de la maman, pardon, le ventre de l'épouse de Pharaon, que ce ventre-là ne peut pas donner naissance à un enfant. Ça, tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah maîtrise les cœurs, maîtrise les yeux. Celui qui voit aime cet enfant, les cœurs tombent devant ce bébé qui est d'une beauté extraordinaire. Étape suivante, Moussa alayhi salam va grandir dans le palais du Pharaon, ainsi de suite. On zappe les étapes. Autre concours de circonstances difficiles, Moussa rencontre un copte d'Israël, comme on dit tout à l'heure. Il vient en aide, il donne une carte, il ne voulait pas tuer, il meurt. Personne ne sait, on se dit que, ouf, il est protégé, son honneur est sauf. Le lendemain, il croise le même Israélite avec un autre copte. Moussa se fâche, dit encore toi, et il vient avec rage, et l'Israélite croit que cette fois-ci Moussa va le frapper, et du coup, il dit la vérité, alors que personne ne savait qui avait tué. Pharaon était furieux. Il avait émis des avis de recherche pour enquêter qui c'est qui a tué. Ce copte n'acceptait pas le meurtre de quelqu'un parmi ses proches. Et là, l'Israélite, il dit que tu vas me tuer comme tu as tué l'autre personne hier. Le copte, il a eu l'information, il quitte. Le conflit ne l'intéresse plus, il file vers Pharaon, va dire c'est Moïse. Et Pharaon n'a jamais vraiment apprécié Moussa. Il savait qu'il y avait quelque chose de louche, mais c'est son épouse qui voulait le garder. Il savait que il avait des doutes. Pharaon n'a jamais été tranquille. Et là, il a l'occasion de mettre à exécution ses menaces. Et concours de circonstances contre Moussa, il doit fuir. On se dit que quand la maman de Moussa attendait ce bébé, Allah Rabbul Izzah lui avait révélé وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. On va faire de lui un prophète. On va dire comment est-ce que sa prophétie va commencer. Il a un meurtre sur le dos et il est fugitif. Comment est-ce qu'il va revenir après chez Pharaon? On se dit que c'est pas, ça va être trop compliqué cette prophétie. Au cours des circonstances, il fuit. C'est par cette fuite qu'il arrive à Madian et qu'il rencontre celle qui sera son épouse. Alors qu'il n'a rien, il n'a pas de moyen de se marier, il va fonder une famille. Et lorsqu'il retourne, Allah décide qu'il se perd en chemin, trouve cette lumière, arrive au point de rendez-vous, d'où le verset ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ يَا مُوسَى ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ يَا مُوسَى. C'est tout ça, c'est le taqdir d'Allah. Vous voyez des hauts et des bas, vous vous prenez la tête, vous soufflez, vous angoissez, vous stressez. Ne stressez pas. Tout ce que vous voyez dans sa vie là, ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ يَا مُوسَى. En finalité, c'est exactement là où Allah Rabbul Izza voulait qu'il arrive. C'était le taqdir. Notre vie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les péripéties, akhi fillah, on ne peut pas dire ukhti fillah, akhi fillah, au frère en islam, de toute façon, quelles que soient les circonstances, tout est une question de taqdir. N'aie aucune crainte, n'angoisse pas, la tahzan, ne sois pas triste, la taqlaq, ne sois pas angoissé, tout est dans les mains d'Allah. Avant que ta maman ne te mette au monde, ton taqdir est déjà prédestiné, déjà écrit. Tu as juste à faire les efforts pour aller dans le sens de ce qui t'a été prédestiné, et sache que tu as le libre arbitre, mais la décision que tu vas prendre en finalité, Allah le savait déjà et Allah l'avait prédestiné par rapport au choix que tu allais faire face à un carrefour de décision. En finalité, l'homme n'a pas à avoir peur. Tout est déjà prédestiné en fonction de ses efforts, et ces efforts qu'Allah Rabbul Izza a dans son ilm, dans sa connaissance qui est infinie et qui n'est pas accessible à l'homme. Donc, Ibnadahu Rabbuhu Bilwadi al-Muqaddasi Tuwa. Donc, c'est un endroit béni par Allah, c'était dans la terre de Cham. On passe sur les différents points. Idhab ila Fir'auna innahu tara. Va vers Pharaon, pour la traduction, va vers Pharaon, vraiment, il s'est rebellé. Innahu tara. Et quel était le, on avait dit en introduction, le grand péché de Pharaon? Il a osé dire, wa qala Pharaon, ya ayyuhal mala, ma alimtu lakum min ilahin ghayri. En ce sens, oh, ma cour, je ne connais aucune autre divinité à part moi, pour vous. Na'oudhu billah, le seul qui a osé proclamer être le Seigneur des mondes. Et Moussa alayhi salam avait sollicité l'aide de Haroun alayhi salam pour mener à bien sa mission, parce que on a dit que c'est une prophétie difficile, parce que on a affaire le plus grand tyran, le seul qui a osé proclamer l'unicité d'Allah, l'unicité, le tawhid. Moussa alayhi salam a un passif avec Pharaon en étant son fils adoptif et en ayant un meurtre sur son dos et en étant fugitif. Et même s'il retourne, il y a un autre problème, il a du mal à s'exprimer. Parce que quand il était petit, on avait raconté l'histoire de la braise et tout, ça aussi c'était le taqdir d'Allah Azza wa Jal. Allah a décrété que cela se passe de cette façon, pour que Moussa ait une épreuve en plus. Et que quand il va voir Pharaon, il n'aura pas confiance en son éloquence, il n'aura pas confiance en son ilm, parce que Moussa avait reçu un ilm de la part d'Allah. Il avait été éprouvé par rapport également à Qibla. Il pensait être celui qui avait le plus de connaissances, mais Allah l'a montré qu'il y a d'autres qui connaissent mieux, qui connaît plus de choses que toi. Il ne va pas avoir confiance non plus en ce miracle. Un bâton qui devient serpent, un serpent qui est capable de détruire un village en entier, de détruire, de manger tout ce qui est autour de lui, et qui revient un bâton lorsqu'il l'attrape. À notre époque, comme je l'ai dit la dernière fois, on appellerait ça une arme de destruction massive. Quelqu'un qui sait qu'il a ce pouvoir, personne ne le résiste. Mais non, malgré le fait qu'Allah lui ait montré le pouvoir qu'il lui a accordé, il place sa confiance en Allah. Avant d'aller voir Pharaon, il invoque Allah et demande son aide. Et Allah dit à Moussa alayhi et son frère Haroun, « Wala taniya fi dhikri » dire que vos cœurs soient en relation avec Allah en permanence par le dhikr. En aucun cas ne fait confiance, ça c'est moi qui explique, en aucun cas il fait confiance en ce bâton, ni en sa main qui devenait brillante. Non, il a confiance en Allah. Il demande l'aide de Haroun, Allah lui accorde cette aide. Haroun qui était éloquent. Mais malgré ça, il ne met pas sa confiance en Haroun. Il met sa confiance en Allah. Il n'arrête pas de demander l'aide d'Allah à chaque étape de sa prophétie. Et Allah lui accorde son aide. Allah rassure et Allah lui demande de ne jamais manquer de faire le dhikr. Magnifique. On passe très vite, hein, mais c'est des leçons de foi exceptionnelles dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Innahu tara. Faqul. Alors là c'est l'espoir. Faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Puis dis-lui, Allah Rabbul Izzah lui demande de véhiculer, de faire passer un message à Pharaon. Là, le message, c'est « Voudrais-tu te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes ?» Et parenthèse, de quelle façon est-ce que Moussa alayhi salam devait s'adresser à Pharaon ? Vous avez le verset, vous connaissez. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Allah Rabbul Izzah lui demande de parler avec douceur, barakallahu fik, à Pharaon. Bel exemple pour n'importe quelle personne qui prêche, quel que soit l'éloignement de la religion de la personne à qui s'adresse le discours ou la prêche, quels que soient les péchés, quelle que soit la gravité des péchés de la personne qui est en face de toi. Deux éléments. Quel que soit ton niveau de science, de ilm, ton ancienneté dans la religion, quel que soit ton niveau spirituel, et ça Allah seul le sait, quel que soit ton manzila, ta place dans la société, ne prends jamais les gens de haut. Ne considère jamais les gens comme perdus, abadan, parce que tu ne t'imagines pas la clémence d'Allah. Vous voyez un jeune dans la drogue, un jeune qui boit, un jeune qui va en boîte. Je me rappelle dans le séminaire, on avait fait en métropole, il y a des gens qui se posaient la question, pourquoi est-ce que je donne toujours des exemples en boîte et tout, c'est pas le public. Effectivement, quand on parle aux jeunes en général. C'est pour ça que ce sont les exemples qui reviennent. On voit un jeune qui est dans cette situation, on considère qu'il est perdu, il n'y a plus d'espoir. Si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, c'est toi qui es le pécheur. Si tu finis par te dire que celui-là, c'est une histoire, que quelqu'un était dans le péché, quelqu'un d'autre qui était pieux, dit que Amma anta, toi, jamais Allah ne te pardonne. Ça veut dire qu'Allah a pardonné à ce pécheur et Allah a puni cet homme, entre guillemets, pieux, qui n'avait pas confiance en la clémence d'Allah et qui a osé porter un jugement. On n'est pas là pour juger les gens. Abadan. On n'est pas là pour juger les gens. Laissons le jugement à Allah Azza wa Jal. Tu vois ton frère, même si tu le vois dans l'adultère, dans le zina, où il est, quels que soient les péchés, un, ne désespère jamais. Deux, fais-lui le rappel. Parce que quand tu fais le rappel, tu fais revivre le travail des Anbiya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le rappel combien de fois à son oncle Abu, complété, Abu Talib, barakallahu fik. Qui était plus éloquent que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui avait le plus de ilm que lui? Personne dans l'humanité. Abu Talib n'a pas accepté le message. Ce qui veut dire que quand tu vas parler à une personne, ne te dis jamais que lui, il est parti trop loin. Ah non, pas pour toi, il est un spécial. Il est un cas à parler. Il ne sait pas, c'est pas possible. Abadan, jamais. Parce que les prophètes ont été voir les personnes les plus éloignées. Et ils n'avaient pas confiance en leur pouvoir de persuasion, leur éloquence ou l'aura qu'ils avaient. Mais ils savaient que la guidée dans les mains d'Allah... Ma alayka illal balar. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de dire, de faire passer le message. J'étais récemment en Arabie Saoudite, c'était l'heure de Maghrib. J'étais dans un endroit, dans une localité, l'heure de l'Adhan donné. J'étais avec une connaissance. Et il y avait un groupe de jeunes, malheureusement, qui étaient attablés, donc à un café. Et. Nous, on allait à la masjid. Donc, ça m'a fait un petit peu mal. J'étais triste que c'est le Adhan et qu'ils restent là et qu'ils ne vont pas à la masjid. La personne qui était avec moi m'a dit, surtout, ne va pas les parler. Ne va pas les parler. Tu es ajnabi, tu es un étranger. Tu es venu à Umra, tu es un étranger, tu n'habites pas ici. Et ils sont capables de te dire des choses et tout, et ainsi de suite. Malheureusement, j'ai écouté cette personne. Mais j'ai fait une chose. Je suis passé près d'eux, j'ai fait salam alaykoum, avec beaucoup de muhabba. Et avec, vraiment, je me suis dit que si vraiment une seule chose que je peux faire, c'est transmettre le salam, que la paix soit sur vous. Ils ont répondu avec beaucoup d'humilité, beaucoup de tawadu, on sentait qu'il y avait quelque chose. Puis je me suis dit que j'aurais pas dû douter. J'aurais dû dire à ces personnes, Ikhwan, yassala, Allah ybarik fik. Ta'alu, awal ma yus'alu anhu l'abdu yawm al-qiyama, min a'mal yassala. La première chose à propos de laquelle on aura à répondre le jour de qiyama, c'est ça. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, j'ai préféré suivre le conseil de la personne. Jusqu'à maintenant, j'ai des remords. Mais Moussa alayhi salam, ou Ibrahim, ou Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam, ils faisaient le travail, ils propageaient, ils disaient. Mais ils savaient que la guider dans les mains d'Allah. La seule chose qu'on a à faire, c'est de faire passer le message. Maintenant, dans la façon de faire passer le message, il y a tout un travail. Il y a le travail intérieur avant. Sois sincère. Que tes paroles soient remplies d'humilité, d'amour et de désir de guider, de hidayah. Ne prends pas les gens de haut. Que ton discours soit acceptable. Que ton discours ne soit pas... Que ton discours ne blesse pas ou ne vexe pas la personne. Ne déconsidère pas la personne. Ne lui fais pas comprendre qu'il est inférieur à toi. Et ainsi de suite. C'est tout le manhaj des anbiya alayhi salatu wa salam dans la da'wa. Et place ta confiance en Allah. Après la prêche, tu t'en remets à Allah. Tu fais doua qu'Allah le raccorde, la guider. C'est pas juste que tu as été faire une prêche. Garde confiance, contact avec Allah. Implore Allah. Lève, qiyamul layl, réveille-toi. Fais doua pour la personne. Si quelqu'un se fait du souci pour son fils ou sa fille, ou ses proches ils sont de telle situation, ce n'est pas tout de les mettre à table ou de les, même de les amener en voyage quelque part, ou de dire voilà il faut faire comme ci comme ça. Fais tes efforts, mais avec tes efforts tu dois greffer la relation avec Allah. Si vraiment tu as du souci pour tes proches, pour ton épouse, pour ta famille, soeur, frère, cousine, et ainsi de suite, réveille-toi qiyamul layl. Yastahiqoun wallah, ils méritent. Ils ont ce droit sur toi. Tu te réveilles des nuits de la nuit, fais un mujahada, fais un effort et implore, pleure, demande à Allah, oh Allah, donne la guider à mon fils, donne la guider à ma fille, donne la guider à mon père, à ma mère, à mon frère, à ma soeur, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait la prêche, la da'wa ilallah. Donc, on revient parce qu'on doit compléter ces cinq versets. Qui c'est qui fait un masjid là? C'est notre frère même? D'accord. Il haba. Il a Pharaon, innahu tara. Non, on y était. Non. Faqul hal laka ila an tazakka. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. C'est, subhanallah, les ulama, les mufassirin, rahimahumullah, disent que ça, c'est un message d'espoir. Quand Moussa, alayhi salam, reçoit l'ordre d'Allah de dire à Pharaon, celui qui a osé dire, je suis Allah, na'oudhu billah, voudrais-tu te purifier? Ce qui veut dire que la porte du tawba est ouverte pour toi, Pharaon. Il suffit juste que tu mettes cet orgueil, cette fierté de côté et que tu retournes vers Allah. Fais le geste, fais le premier pas vers Allah et Allah Rabbul Izzah va t'accepter. Les portes d'Allah ne sont fermées pour personne. Personne n'est figé pour aller en Jahannam. Chaque personne a la possibilité de revenir vers Allah. Dans cet hadith, il dit que nous avons tous un Jannah et un Jahannam. Et jour après jour, nous construisons notre Jannah et nous détruisons notre Jahannam. Ou, Wallah musta'an, et qu'Allah nous protège, ou vice versa. On construit notre place dans le Jahannam et on détruit notre place dans le Jannah. Et en finalité, ce qu'on aura, c'est ce qu'Allah a prédestiné, parce qu'Allah savait quelles auraient été nos décisions durant notre vie, durant les moments où on a le choix entre le bien et le mal. Le fait même que Allah Azza wa Jal avait déjà décrété que Pharaon n'aurait pas la foi et qu'il serait le premier à être précipité à subir les châtiments du Jahannam, le jour de la résurrection, avant tout le monde, mais que malgré ça, Allah Rabbul Izzah demande à Moussa d'aller voir Pharaon pour prêcher, ça montre bien qu'il n'y a pas de fatalisme dans le din. Il y a le ilm d'Allah, point initial et point final, parce que c'est Allah qui a tout créé, mais entre temps, Allah Rabbul Izzah accorde le libre arbitre. C'est une belle leçon de taqdir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une leçon pour la compréhension de l'imam bil qada et wal qad, comprendre de façon saine le destin. Il y a la situation initiale, la situation finale qui est dans les mains d'Allah. Allah seul le sait, mais entre les deux, chaque individu est acteur de sa vie. Il prend ses décisions, il fait ses propres choix. Mais le choix que tu vas faire, en finalité, c'est la situation finale. Et Allah, il savait déjà ce que tu allais prendre comme décision. Mais on doit faire des efforts. C'est pour ça qu'Allah, Rabbul Izzah, envoie Moussa, alayhi salam, voir Pharaon pour essayer de le convaincre. « Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha » et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Il y a hidaya et il y a khashiyatullah. Les deux vont de pair. Et ça, c'est un commentaire qui risque d'être un peu long. Je ne sais pas, on en est à combien de minutes? 53, ça fait déjà beaucoup. Mais c'est des trucs trop importants à développer. Pour qu'une personne trouve la guidée et reste ferme dans la guidée, cela ne peut se faire qu'avec khashiyatullah, la crainte d'Allah. S'il n'y a pas la crainte d'Allah, on n'est pas réellement dans le droit chemin de la guidée. Développer la crainte d'Allah, c'est un élément essentiel. Ce qu'on appelle khashiyatullah, taqwallah, ce sont là des synonymes. Et on va dire ça, c'est un peu plus technique. Il y a une différence entre al-khashya et al-khawf. Les ulama expliquent que al-khawf, c'est la peur. J'ai peur de quelqu'un qui va me tuer. J'ai peur de quelqu'un qui veut, je ne sais pas, me faire du mal. C'est la peur de quelque chose, de quelqu'un qui est nuisible. Mais khashya, c'est crainte avec le ilm. C'est on a la crainte de celui qui est au-dessus de nous, tout en connaissant les qualités de cette personne. Et les savants disent, d'où le verset innama yakhshallaha min ibadihi ulama, que les seuls qui ont vraiment khashyatullah, la crainte d'Allah, ce sont les savants. Et quand on dit ulama, c'est pas on dit ulama. La terminologie de alim aujourd'hui, c'est celui qui a fait son cursus, qui a son diplôme. Mais on, une personne peut-être, dites-moi, Imam Bukhari, il avait quoi comme diplôme? Diplômé de quelle université? Muslim, Tirmidhi. Il n'y a qu'une personne qui apprend. On va dire qu'il est un peu autodidacte. Pas autodidacte, mais il apprend avec des chers. Il apprend avec des savants reconnus. C'était le manhaj des pieux prédécesseurs. Il restait. Moussahaba, avec le cheikh, ils apprenaient hadith, ils apprenaient tafsir, ils apprenaient le fiqh, le usul, ainsi de suite, jusqu'à ce que, mashallah, ils ont un degré de ilm extraordinaire, deviennent des cheikhs eux-mêmes. Il y a que, donc, même à notre niveau, on n'a pas à se dire que, ah zut, inna ma yakhshallaha min ibadi al-ulama, c'est pas possible, je suis professeur de maths, ah, je suis menuisier, je suis pompier, je suis avocat, je suis commerçant, donc je serai jamais parmi les ulama. Non! Le alim, c'est pas uniquement le cursus, ça c'est des choses qui ont été programmées pour faciliter les choses, c'est un tartib. Mais celui qui apprend, qui développe son ilm jour après jour, en fonction de son temps, mais qui le fait et qui arrive à un niveau, il y a, mashallah, une connaissance du kitab wa sunnah, il connaît le aqidah, le tawhid, al-asma wa sifat, il connaît vraiment son Seigneur, c'est quand on a le ilm que réellement on va ressentir khashyatullah. La crainte d'Allah, la taqwa, ne peut pas s'installer dans un cœur qui n'a pas de ilm, ne peut pas s'installer correctement de façon complète et parfaite dans un cœur qui n'a pas de connaissances religieuses. D'où l'importance de connaître, d'apprendre talabul ilm avec l'apprentissage de la connaissance religieuse. Et qui dit apprendre, dit mettre en pratique. Vous apprenez, vous mettez en pratique. C'est comme innal ladina amanu wa amilus salihat. On apprend le ilm, on développe le iman, on développe le ilm sur les furu', sur les aqidah, et ainsi de suite. On met en pratique et la crainte d'Allah va prendre place, va naître, va croître dans le cœur jusqu'à ce qu'on fasse partie des gens qui ont la crainte d'Allah, Azza wa Jal. Ça, c'est une petite leçon qu'on tenait à expliquer. Donc là, on va s'arrêter, là, Inch'Allah. Et on va continuer l'explication sur l'histoire de Moussa alayhi salam et Pharaon la prochaine fois, parce qu'il nous reste à voir le signe que Moussa lui a montré rapidement et sa réaction, son orgueil, sa fierté, comment il a refusé d'accepter la vérité et, troisième point, quel fut le châtiment. Comment est-ce qu'Allah l'a humilié devant les gens et qu'Allah lui a fait montrer que tout ce qu'il a essayé de construire autour de lui pour se protéger contre Moussa et contre cette prophétie, ses propres intermédiaires-là vont se retourner contre lui, vont lui faire tomber, chuter et il va voir là le haq, la vérité et ce sera là une grande leçon pour l'ensemble des croyants jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah nous permette de comprendre ces quelques paroles et de méditer sur le sens et que la réalité pénètre nos cœurs et que notre iman augmente de jour en jour. Chers frères, si on pourrait retenir qu'une chose, c'est qu'il est nécessaire d'approfondir notre relation avec le Coran, d'apprendre le ilm, de connaître l'histoire des Anbiya alayhi salatu wa salam, parce que ce sera là une source de réconfort pour nous par rapport à tout ce que nous voyons, les difficultés que nous vivons dans notre vie de croyant, mais également un fil conducteur de toutes les étapes de notre vie pour ne jamais se laisser perturber par les waswasas de Shaytan, les insufflations du diable, mais également par les mauvaises influences au sein de notre entourage, de la société qui nous guide, qui nous pousse vers le batil. Qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Inch'Allah, vendredi prochain, complète.